et bienvenue à tous sur l'émission du Blues, Route 66 sur Radio RDL 103.5 FM, avec Jean-Luc, David et des invités.
Et oui, encore une fois, des invités, salut à tous. Effectivement, en sortant ma vieille Cadillac Eldorado du garage, elle roule encore, et oui. Et en venant jusqu'à l'émission, j'ai encore eu la chance de tomber sur des autostoppeurs bien sympathiques. Ils avaient leurs instruments à la main, mais ils les ont tout lâché lorsqu'ils m'ont vu passer. Ils voulaient absolument monter dans cette voiture, puisqu'ils entendaient des sons qui s'émanaient de l'autoradio, des sons bien bluesy, et ils m'ont dit, mais tu sais... toi, chauffeur, on aime aussi le blues. Alors j'ai dit, bah, écoutez, montez et suivez-moi dans l'émission. Et en discutant comme ça, en venant jusqu'au studio d'RDL, j'ai appris que ces gens-là étaient musiciens. Et quels musiciens, puisque le leader, le chef de la bande n'est d'autre que mon vieil ami exilé à Londres depuis bien longtemps, Frank H, dont on a beaucoup parlé dans l'émission depuis quelques années à travers ses albums solo, mais également évidemment à travers quelques-unes de ses collaborations, et notamment la plus importante d'entre elles, à savoir une collaboration avec le grand Screamin' Jay Hawkins, dont il a été le guitariste pendant quelques années. On y reviendra durant l'émission, mais auparavant, on va tout simplement les saluer. Merci d'être venus, les amis.
Merci d'être passé en voiture par là.
Oh, si je peux dépanner, hein, ça me fait toujours plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà, donc évidemment, on va un petit peu les présenter plus en détail. Donc Franck, pour commencer, tu pourrais peut-être justement présenter tes deux comparses qui sont là avec toi.
Alors, Lamine Gerfi, bassiste de son état, et Stéphane Méniana-Ripoll, batteur.
Alors on aura également l'occasion de parler un petit peu avec eux pendant l'émission, puisque c'est vrai qu'ils ont aussi un bon petit cursus bien intéressant déjà derrière eux, et puis ça sera très sympathique d'en savoir un petit peu plus. Mm-hmm. Évidemment, on parlera beaucoup avec toi, Franck, on essaiera de remonter un petit peu tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui, parce que là aussi, il y a énormément de choses à dire. Mais je voulais commencer l'émission en musique, comme il se doit, avec un extrait de ton dernier album en date, qui s'appelle Beyond the Clouds. Je t'avais prévenu, hein, j'ai un très mauvais accent anglais.
T'es pas obligé de le faire exprès.
Et nous allons tout de suite démarrer l'émission avec le deuxième titre de l'album que tu interprètes toujours en concert et dont tu vas me citer le nom, le titre
ouais, de ton album. Comment, là, attends, il faut que je regarde.
Si tu l'as fait hier,
souviens-toi. Oui, Pack and Up, bien sûr, c'est le deuxième, ouais, tu as raison.
Hein, on pourrait partir avec ça, puis après on
Pack and Up, je fais mes bagages.
Tout simplement. Bon, ouais, on y va, super. C'est parti.
Someday, back in earth. got to do. I know what I've got to say.
Vous êtes sur le 103.5 FM Radio RDL et notre invité principal du jour est Franck Cash et je suis vraiment très content de le recevoir dans l'émission parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'ai découvert il y a déjà près de 15 ans. Hein, c'était au festival de jazz de Nice alors qu'il accompagnait Screamin' Jay Hawkins dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que j'étais absolument tombé sous le charme de son jeu de guitare. Je l'ai tout de suite placé d'ailleurs certainement dans le trio de tête de mes guitaristes français préférés.
Et qui les autres ?
Je ne citerai pas de nom en ta présence.
Pourquoi ? Si.
Non, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'à l'époque, j'étais quand même assez. J'étais assez fan de Bill Durham, par exemple, qui est peut-être assez différent de ton registre, ou de Verbeek, évidemment, qui était peut-être mon dieu à l'époque. Mais c'est vrai que toi, tu te différenciais vraiment d'eux par un jeu beaucoup plus soul.
Quoi, oui, ouais. C'est sûr.
En tout cas, c'est vrai que par la suite, j'ai beaucoup suivi ton parcours, comme tu le sais. Et le fait de te recevoir aujourd'hui, c'est un vrai plaisir.
Partagez, alors, David.
Ben c'est gentil. Alors donc, on va peut-être commencer un petit peu, on va faire un petit retour en arrière et on va essayer d'en savoir plus sur ton cheminement musical, hein, parce que c'est vrai que tu es issu quand même d'une famille d'amateurs de musique, hein, puisque ton père, dont c'était le nom, hein, Francis Hofstein, a même été à la base de certaines grandes manifestations bluesicales
notamment en Alsace,
ouais, c'est ce qui est intéressant, puisque vous le savez peut-être, mais le premier concert de B.B. King en dehors des USA avait lieu en France et à Strasbourg, plus précisément.
C'était le premier ?
C'était le tout premier concert hors des USA.
Ça, je ne savais pas.
Ouais. Et ton père était plus ou moins dans l'organisation, c'est ça ?
Oui, il collaborait avec les gens qui organisaient ça. Ouais. C'est l'époque, je crois, si je ne dis pas de bêtises, des American Folk Blues Festival.
C'est ça, oui. Je pense même que c'est un petit peu après.
Je pense que c'est après,
c'est pas 66, et les American Folk Blues Festival ont dû commencer, je pense, aux alentours de 1962.
Ouais. De toute façon, on peut les dater parce qu'ils sont... On les trouve en DVD.
Ouais.
D'ailleurs, c'est vachement intéressant.
Ouais,
j'en ai deux, historiquement. Enfin, déjà, musicalement, c'est fabuleux. Mais quand tu vois Sonny Boy Williamson, tu sais, cette espèce de grand corbeau là, courbé sur son micro avec son harmonica et ses grands doigts noueux comme ça, c'est fabuleux à regarder. Fabuleux.
Donc, on imagine que tu es tombé dès ton plus.
Dans la potion, je sais pas si elle est magique,
t'as
mais dans le chaudron.
C'est ça, t'as toujours baigné dans le blues finalement.
Ah ouais.
Donc, après le. Pourquoi t'es-tu spécialement orienté vers la guitare ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un guitariste justement que tu as vu aux côtés de ton père lorsque tu étais jeune qui t'a spécialement marqué ? Pourquoi la guitare et pas l'harmonica ou le piano ?
Oui, c'est une bonne question. Mais j'ai souvenir enfant que le son de la guitare me touchait plus que... pourtant j'écoute des pianistes, on en parlait hors antenne tout à l'heure, de Jim McShann par exemple. J'adore le piano, mais le son de la guitare, c'est quelque chose qui me prend le ventre, quoi.
Et comment as-tu appris l'instrument ?
Tout seul.
En autodidacte.
Ce que je recommande pas à ceux qui nous écoutent d'ailleurs, parce qu'on prend beaucoup de mauvaises habitudes. C'est pas forcément une bonne chose.
Et tout jeune, déjà, évidemment, tu croisais énormément de bluesmen. Est-ce que de temps en temps, tu osais leur demander des conseils ? Tu allais au contact ?
Non, parce que quand je suivais mon père, j'ai eu la chance qu'il m'emmène très tôt dans les concerts. Je ne sais pas si c'est moi qui lui ai demandé ou quoi. Enfin bref, je me retrouvais souvent dans les concerts avec lui et backstage, puisqu'il écrivait un petit peu dans des revues, enfin beaucoup même dans des revues. mais je jouais pas de guitare encore. Donc, je jouais un peu de guitare avec mon frère dans notre chambre. Après, j'ai poursuivi tout seul. Mais non, j'ai pas le souvenir d'avoir demandé à qui que ce soit de. Je crois que j'aurais pas osé dire tiens regarde qu'est-ce que tu penses de ça.
Et tu travaillais alors à l'oreille en écoutant des disques, t'essayais de j'ai reproduire beaucoup... ce que tu entendais.
Non, parce que j'étais trop feignant pour reproduire note à note. Je crois que je me suis imprégné de l'esprit, mais le note à note je l'ai jamais fait, jamais.
Et le chant est venu naturellement?
Non. Non, plus tard, le chant. J'ai fait un premier concert à l'école, j'avais 15 ans, je crois. Et on avait un chanteur. Et l'année d'après, on n'en avait pas. Alors, il en fallait un. Alors, j'ai chanté. Et puis, voilà, c'est venu comme ça, je crois. Mais, en fait, je te dis, pas exact. C'est pas la... C'est comme ça que, c'est arrivé. Mais quand j'étais tout môme, je jouais souvent seul. Et je me projetais dans des situations, j'étais toujours chanteur. Mais en vrai, si tu veux, confronté à la chose, pas avant ce deuxième concert, j'avais quoi, 16 ans je crois. Mais dans ma tête, comme ça, dans l'imaginaire, j'étais chanteur, ouais.
Et là, tu as des influences au niveau du chant, parce que finalement, c'est vrai. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu cherches jamais vraiment à noircir ta voix. C'est un petit peu un défaut que je reproche à certains chanteurs de blues blancs qui ont tendance à vouloir absolument chercher le mimétisme. Tandis que toi, non, tu as une voix beaucoup plus claire que tu assumes parfaitement, et de ce fait, ça te donne vraiment une couleur très très sol, je dirais.
C'est déjà difficile d'être en quête de soi-même, si tu veux. Si en plus, il faut se déguiser. Pourtant, le public du blues demande souvent à ce qu'on se déguise, parce que il faut être noir, il faut être américain. Tout un tas de musiciens qui sont ni noirs ni américains, mais qui prétendent l'être, qui font semblant. Ça m'intéresse pas beaucoup. Tu vois. Pourtant, je dois admettre, en jouant la carte de la sincérité, qu'à une époque, j'ai peut-être été tenté de le faire. Tu vois. Mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien parce que peut-être ça mélange un peu les sujets, la remarque que je vais faire maintenant, mais quand on a la chance de rencontrer B.B. King, qui est mon idole, enfin, peut-être j'anticipe sur une remarque que tu voulais faire, comme je l'ai rencontré trois fois, cette personne est tellement lui-même humble, te reçoit dans sa loge, alors que franchement, il pourrait n'en avoir rien à foutre, hein, quand même. C'est des leçons de vie en même temps, tu vois ce que je veux dire. Ça t'apprend un peu à te comporter comme être humain. Alors, ça sert à rien de prétendre à être, enfin, de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, quoi. Donc c'est vrai pour la voix, comme tu disais, c'est vrai pour les relations humaines. Tu vois, c'est pas la peine de faire de faux semblants, quoi.
Et B.B. King, tu l'as rencontré dans quelles circonstances? Tu as eu l'occasion de faire sa première partie, par exemple?
Non, jamais.
Jamais?
Jamais.
Est-ce qu'il t'a entendu?
Non.
Non, t'as pas pu lui remettre un disque?
Non, non. Je lui ai écrit une lettre un jour, j'espère qu'il l'a jetée, qu'elle un truc débile, mais vraiment débile, parce que j'avais envie de jouer avec lui, et c'était un concert qu'il donnait à Deauville, dans les années peut-être 90, 12, tu vois, je ne saurais plus, et je lui avais dit que j'avais envoyé une lettre, parce que je savais à quel hôtel il allait descendre, il n'y en a pas pléthore à Deauville, tu vois, et je lui avais écrit un truc très très con, du genre, si je pouvais monter sur scène avec lui, si je mourais le lendemain, ma maquette était achevée. Enfin, un truc crétin, si tu veux. Mais bon, c'était péché de jeunesse.
Une autre anecdote antérieure, hein, j'aimerais y revenir, on en a parlé après ton concert d'hier soir. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi une rencontre qui a été immortalisée et qui a fait qui a été l'objet de la quatrième de couverture de Rock'n'Folk à une période.
Ouais.
Là, on te voyait bambin, quasiment bambin, en culotte courte, on va dire, sur les genoux d'une grande dame de la soul music. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette anecdote qui s'était réalisée
ouais, alors,
au Festival Jazz de Gion?
Il ne faut quand même pas s'attendre à, ce que à voir la photo, parce que déjà, moi, si mon père ne m'avait pas dit que c'était moi sur la photo, je ne me serais pas reconnu, parce qu'il y a un flou sur la photo. Alors, le petit bonhomme, c'est moi, j'ai 6-7 ans, c'est Juin Lépin, c'est le festival. Et c'est une conférence pour les journalistes ou je sais pas quoi, un cocktail, bref. Et la dame, c'est Aretha Franklin. Ouais. Mm. Et voilà. Et ça fait la quatrième de couverture de Rock and Folk à l'époque. Mm. Parce que je devais certainement être le seul bambin, à mon avis, dans le...
Parmi les quoi qu'il en soit, tu peux te targuer d'avoir été un jour sur les genoux d'Aretha Franklin.
J'ai tapé les cuisses d'Aretha Franklin, monsieur.
Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein.
Non, et je regrette de ne pas en avoir profité. Parce que j'ai une admiration pour cette dame, franchement. Quelle voix, je veux dire. C'est... Enfin bon, c'est... On le sait, c'est pas la peine de... C'est... J'ai reçu un disque que j'ai trouvé sur eBay récemment de gospel de Aretha Franklin.
Donc toujours aussi enthousiaste, enthousiasmé par la dame et la chanteuse.
Ah ouais, c'est fabuleux, je veux dire, c'est magique cette voix. Pourtant, on parle de gospel entre Sister Rosetta Tharpe, Mahalia Jackson. Mahalia Jackson, elle, j'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré en écoutant Mahalia Jackson. My Cathedral, j'en ai chair de poule rien que d'évoquer le. J'ai pleuré en écoutant ça. Mais je ne vais pas dire qu'Aretha Franklin c'est supérieur, c'est autre chose. Mais elle a une voix, cette femme. C'est velouté, je sais pas comment dire, c'est magnifique.
Elle agit sur nous comme un poison, comme un bon poison.
Je t'avoue,
Poison, toujours extrait de l'album de Franck H. C'est parti.
Best I could, and I know darn well I've been lying to myself. Had to let you down before it gets too late. It's dancing with you, what an inside thing. I drink my boys on the slowest kidding ocean. I used to do things I better quit for my sake. I'd rather be cool, follow my new rule. It is about time to start a new good life. I know what has been the past, I take a bet on the future. I drink my boys on the slowest killing ocean. And I don't know why I feel so sad. Time has finally come to get rid of you. But I do know why I feel so bad. Cause this love affair, it put me down. I drank my poison, a slow killing potion, until my jug got dry. We hurt ourselves, we had to face the truth. I feel sorry if I done you wrong. I have been told you were not so low. I'm still looking for someone to love. I'm drinking my poison as slow as the killing potion. Time has finally come
to get rid of you. But I don't know why I feel so bad. 'Cause this love affair, it put me down. I drank my poison, a slow killing potion, until my jug got dry. Drank my poison, a slow killing potion, until my jug got dry. I drank my poison, a slow killing potion, until my jug got dry.
Ça fait 4 ans que je ne l'avais pas vu et pourtant à chaque fois que je vois c'est comme si je l'avais quitté la veille. C'est Monsieur Franck H, notre invité du jour dans Route 66.
Mon vieil ami.
Non, pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. On va peut-être un petit peu parler de tes débuts professionnels.
Ouais.
Comment ça s'est passé? T'as joué dans d'autres groupes après ou alors t'as tout de suite démarré sous ton propre nom?
Non. Moi je joue de la guitare pour moi dans ma chambre. Je vais à tous les concerts de blues de Paris, de région parisienne, parce que j'habite là à cette époque. Un jour, je vais à la Mutualité à Paris, écouter je ne sais pas qui, c'était un lieu de concert de blues. Et je reçois on me donne un petit flyer bleu pour le Bebop Bar à côté de l'Opéra. Et je regarde le truc, je dis bon, allez, je vais jouer là. Ça m'est venu comme ça. Et effectivement, trois mois après, je jouais là. Et j'ai monté un groupe et j'étais pas professionnel, je jouais pour mon plaisir. Et voilà, ça a commencé comme ça, 1985.
Et après, évidemment, il y a eu la connexion avec Screamin' Jay Hawkins, c'est venu rapidement parce que
non.
Ça a débuté quand? Au début des années 90? Qu'est-ce qui s'est
95.
Passé entre 95? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce laps de temps?
Entre 85
ouais.
et 95, entre les 10 ans.
Ouais.
Là.
T'as beaucoup joué?
Alors, 85-88, je fais mes gigs pour le plaisir, tu vois. Je vais à New York souvent parce que j'ai un frère à New York, je vais le voir. Et là, je me retrouve sur la scène de l'Apollo pour le show, un Night Show du mercredi soir.
Alors l'Apollo, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit mythique, hein, c'est une grande salle de concert qui est située à Harlem et qui a vu passer les plus grands noms des musiques afro-américaines.
Bah, dans les années 60...
Il y a un live de James Brown à l'Apollo qui est absolument
62,
hallucinant.
T'as Ike et Tina, c'est la salle où les Noirs... dans l'Amérique ségrégationniste peuvent jouer et c'est l'équivalent de l'Olympia en France au niveau des vibrations dans les murs et dans les sièges, quoi, tu vois. Donc ils ont un show le mercredi soir, je sais pas s'il existe encore, c'est les amateurs. Alors t'as des petites mômes qui chantent, t'as des humoristes qui essayent de faire marrer les gens et t'as un mec qui fait Everyday I Have the Blues qui vient de Paris qui se retrouve là et qui gagne le troisième prix, parce que t'as des prix. Et le troisième prix, c'était $25 en 88, alors que c'est pas ce que gagnait un mec dans les clubs de New York, tu vois, pour jouer. Non, je dis des bêtises, $75. Et le Ralph Cooper, un monsieur que personne ne connaît certainement ici, mais que je veux citer parce que il me prend d'affection. On va savoir. Peut-être parce que je suis français, blanc.
C'est qui? C'est le dirigeant du lieu?
C'est un peu le
Bruno Cocatrix local ou... Non, c'est carrément le MC, le maître de cérémonie. Quoi.
Maître de cérémonie,
d'accord.
C'est lui qui
c'est
fait
lui
le show.
Présente, ouais.
C'est très étonnant parce que là, j'arrive dans un monde noir. T'as des gens là qui font des trucs, ils ont des rôles. Je ne sais pas qui fait quoi, ni pourquoi, ni comment. Et les mecs me sourient, sont gentils, et je sais pas ce qui se passe. Genre, c'est Black Art encore aujourd'hui, je piche pas ce qui s'est passé.
Et dans le public aussi, le public était vraiment composé de
ouais,
gens noirs
ou... Il les force un peu dans le public, ouais. Tu vois, il les fait un peu applaudir, machin. Je gagne le troisième prix, je dis pas que c'est volé, mais c'est peut-être un petit peu, pas forcé, mais suggéré, on va dire, tu vois. Et il me prend d'affection pour lui, on est en mars 88, il me dit... Tu viens quand tu veux. Je dis, bah ça c'est très bien, je reviens en juin. Donc 3 mois, mars, avril, juin. Je reviens 3 mois après, là, comme invité sur le show. Derrière, il y a le house band. Terrible, terrible. Et ta guitare, tu la plantes dans la sono. Enfin, t'imagines, c'est comme si tu jouais dans le poste de radio, quoi. C'est-à-dire, t'oublies le son. Non, c'est pas mon son, les retours, machin, t'oublies. Tu fais ton truc, tu chantes, c'est brut de décoffrage. T'as des mômes qui viennent de tous les États-Unis pour faire le show. C'est Radio Crochet, quoi, si tu veux. C'est la chance de leur vie parce que t'as des producteurs dans la salle. Et il y a un mec qui vient me voir, bon, un escroc, un avocat qui veut que je lui donne de l'argent. Il dit, je vais te produire, mais il faut que tu me donnes de l'argent. Donc lui, on n'en parle pas. Et il y a un petit bonhomme qui vient me voir, l'œil un peu vitreux, comme ça, la perruque de Traviole. Il me dit, j'ai un magasin de disques à Harlem. Ce serait bien si on pouvait faire quelque chose, mais je sais pas comment. Il me donne sa carte, Bobby Robinson. Et c'était le manager d'Elmore James. J'ai gardé la carte, c'est incroyable. Tu vois, encore aujourd'hui, je comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là.
Et vous avez travaillé ensemble?
Non, ben non. Il avait un petit magasin de disques. Mais il est venu me voir pour me dire qu'il avait été le producteur d'Elmore James, quoi. Ouais. tu vois qui je veux dire, quoi.
Et après, tu retournes en France?
Ouais, je refais le show une troisième fois. Je refais le show une troisième fois parce que, comme j'avais la première fois gagné le troisième prix, j'avais le droit d'aller en finale. Et j'ai pas eu la finale. C'était un joueur de tambour qui venait de Trinidad qui avait gagné le truc. Mmh. Et il y avait 1000 dollars, il a pris.
Le fait d'avoir joué à l'Apollo, évidemment, c'est tout de suite quelque chose qui en jette sur la carte de visite. Ça t'a un petit peu aidé à trouver des gigs par la suite en France, non? Du tout?
Non, ça m'a. Non, je suis rentré, par contre, je me suis dit, je fais de la musique, c'est mon métier maintenant. Mmh. Voilà, ce sera mon métier. Mmh. Parce que ça m'a révélé à moi-même, on va dire. Mmh. Tu vois?
Et par la suite, la connexion avec Screaming Jay Hawkins, alors on va y revenir, comment ça s'est passé?
Jay, il débarque à Paris, je ne sais pas quand. Si, il fait un concert à l'Olympia en 83. Il vient manger à la maison, je ne sais pas comment. Toujours par l'intermédiaire de mon père, tu vois. On discute, on dit des conneries. Moi, je fais 83, donc je fais de la musique toujours dans ma chambre. Et je lui dis, je sais pas, j'avais envie de faire l'insolent. Je lui dis, je serai ton prochain guitariste parce que je sais peut-être pas quoi dire d'autre. Et je crois qu'il s'installe à Paris en 88, lui, ou 85, à Levallois. Et il cherche un groupe. Et par des intermédiaires, il s'adresse à des gens qui me recommandent en fait auprès de lui parce que je suis peut-être plus dans le style que ceux à qui. Si tu veux, ça c'est arrivé dans les oreilles de Rémi Charmasson, qui est un guitariste de jazz moderne, on va dire. Un peu dans la veine. Qui tu me parlais hier, le chauve là
Marc Ducret.
Ouais, un peu dans la veine Marc Ducret, tu vois. Et qui est un pote, hein, qui est un pote à nous. Et Charmasson, il dit non, c'est pas mon style, là, Screaming Jay Hawkins. Mais appelle Franck. C'est voilà. Mmh. Et ça s'est fait comme ça. Et on a pris rendez-vous pour le méridien où jouait Jay. Et. Il m'a dit, branche ta guitare. Et il est au piano, comme ça, il me regarde, il me dit, je t'emmène dans un univers où t'es jamais allé. Toum, 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 toum. Il fait Hong Kong. Mm-hmm. Et là, je me dis, oula. Effectivement, où va-t-on? Et après, il me dit, allez, woke up this morning, c'est toi qui lance le morceau. Quelle tonalité, allez. Je connais, j'ai écouté B.B. King. Papadabada, do. Il le faisait en do. Je vais jouer avec lui. C'est fait comme ça.
Et par la suite, évidemment, il y a eu des grands moments avec lui, notamment des moments scéniques assez.
Scéniques ou cyniques?
Scéniques, on va commencer par ça. Ouais. Des concerts assez fantastiques. Hein. Vous avez participé au festival de blues de Chicago.
Qu'on a participé, c'est que Jay, d'abord, me fait le plaisir de m'emmener avec lui parce que du groupe. Il prend un groupe local, mais il m'emmène. Donc, super, je n'étais jamais allé à Chicago. Par 10 jours. et il me fout une paire royale pendant 10 jours, je fais ce que je veux. Il me dit, seule chose, tu jams pas. T'as pas le droit de jouer. Mmh. Tu joues avec moi, mais tu fais ce que tu veux. Et donc il m'emmène, et il est, lui, c'est le 13e festival du Blue, 13e édition, on est en 97, je crois. Et il est le headliner, c'est lui, il finit le festival, le headliner, quoi. Et je sais pas si ce qu'on m'a dit est vrai, mais Matthew Scholar, tu sais, que tu connais l'armée ici, c'est son frangin Larry, mm-hmm. qui était à Chicago à ce moment-là, que je vois, parce qu'on se connaît, me dit, tu vas voir, c'est monstrueux le festival, il y a une foule terrible, colossale. Mon frangin est toujours à New York à cette époque-là. On a joué. Alors, le concert est diffusé en même temps sur les radios dans tout le pays. Je sais pas si t'imagines l'ampleur du festival de blues de Chicago, quoi. Et, c'est-à-dire que moi, je comprends, au moment où je joue, mon frangin, il entend ça à la radio à New York, tu vois. Et il y a, il m'a dit, 250 000 de personnes qui étaient sur le site. Mmh. De fou. Et c'est chaque année pareil.
Ouais, ouais.
C'est extraordinaire, ce festival. Mmh. Et tu joues une heure.
Donc, mais une heure devant 250 000 personnes.
350 000 personnes. Ouais, c'est fou. Fou, fou. Ouais, alors t'imagines, ça c'est un beau souvenir, tu vois.
Et puis d'autres salles mythiques, hein, le Spectrum à Montréal. C'était toujours avec Jay, ça.
Ah non, c'était moi.
C'était tout seul.
C'était tout seul, ça.
Ouais.
Ça, c'est un des plus beaux festivals qui m'a été donné l'occasion de faire. Le 2000, le Festival International de Montréal.
Et là aussi, devant un public assez impressionnant.
Ouais, parce que tu fais une première scène, tu fais deux concerts dans la journée, tu fais une première scène en plein air, là, t'as 10 000 personnes, et après tu vas au Spectrum, et là, il y a 3 000, 4 000 personnes. Mais c'est vachement sympa, les gens sont, comme on disait, naturels, il y a une ambiance festive, t'as en même temps, pendant que nous, on joue devant 10 000, t'as un festival brésilien, t'as 200 000 personnes. T'as pas un pare-brise pété, t'as pas un portefeuille dérobé, c'est vachement sympa, c'est bonne ambiance, c'est superbe festival. Et j'ai vu parce qu'on est parti quelques jours, là, on a profité d'être là-bas, j'ai vu, parce qu'on a accès aux concerts gratuitement, les musiciens, j'ai vu un concert de Sonny Rollins, un des plus beaux concerts de ma vie. C'était magnifique. Il a pas loin de 80 ans, lui, hein. Ouais. C'était waouh!
J'imagine.
Ah ouais, non.
L'Olympia, toujours avec Jay, puis pas. Alors, c'était avant l'Olympia, oui, je crois, ou juste à peu près au même moment. Vous partez à Memphis enregistrer ce qui sera le dernier album studio du grand bluesman, avec la crème des musiciens US et encore le petit Frenchie qui participe à l'aventure.
Ouais.
Tu as donc l'occasion de jouer aux côtés du grand bassiste David Hood, du batteur Roger Hawkins.
Tu les connais certainement mieux que moi, ces gens-là. Ils ont enregistré, ils ont tout fait, c'est la rythmique.
Ah oui, bien sûr, c'est ça, tout à fait, ils ont joué avec tout le monde, Etta James, c'est hallucinant, quoi.
C'est la rythmique.
C'est ça, c'est la référence du son de Memphis, ouais, absolument.
C'est ça.
Ouais.
Donc, des mecs, encore une fois, des mecs abordables, sympas, gentils, je veux dire, au studio, souriants.
Et donc, Jay enregistre un superbe album qui s'appelle At Last et qui malheureusement porte bien son nom puisque c'était son dernier disque. Et durant les sessions, vous enregistrez ensemble un instrumental sur lequel tu as la part belle. Est-ce que tu peux un petit peu parler de ce morceau qui figurera finalement sur un album live de Screamin' Jay Hawkins, le fameux album live à l'Olympia. Donc, comment s'est passé l'enregistrement?
Déjà, on est dans l'avion, j'ai dit Jay, on serait peut-être quand même pas... Pas mal si tu me briefes un peu sur les morceaux, quoi. Oh, tu verras. On verra au studio. Bon, moi j'y vais quand même pas inquiet, mais enfin, j'ai envie de faire bien, donc. je me suis dit, qu'est-ce qu'il va encore nous réserver, quoi. J'ai envie d'être à la hauteur, donc je me renseigne si tu veux. Et puis, bon, les morceaux, on les découvre avant de les enregistrer, quoi. Donc avec David, le bassiste, on fait les relevés, tu vois, les par numéro, enfin comme ils font là-bas. On a fait, je crois, deux prises pour chaque morceau, et puis c'était dans la boîte, quoi. Et à la fin de la session, enfin ça prend 3 jours, 4 jours, on a enregistré. Il dit, je veux que tu fasses un morceau instrumental. Je dis quoi ? Il me dit, ouais, voilà le thème. Écoute. Avec des notes fausses, parce que il y avait des doigts qui tombaient un peu, machin. Je dis, mais qu'est-ce que je fous avec ça? Il me dit, bah, tu me joues ça, c'est ton morceau, ça s'appelle Frankly Speaking. Qu'est-ce que tu me sors? Il me dit, tu t'appelles Frank, j'appelle ça Frankly, ça veut dire franchement. Donc il joue sur vachement bien trouvé le titre. Grand, c'est, comment on dit, le mec qui fait de la sémantique. Comment? Ouais, il associe vachement bien les mots, ce qu'est Min Jay. Mm-hmm. Ça s'entend dans ses paroles, quoi. Donc, frankly speaking, c'est lui qui sort le thème. Et il me dit 1, 2, j'ai attends, sans sol. Et vas-y. Et alors il me dit, tu exposes deux fois le thème, tu prends solo, après solo de sax. J'ai pas le nom en tête du saxophoniste, il est extraordinaire ce mec. Il a une articulation, il a un son. C'est le sax comme je l'aime. Fabuleux ce type.
C'était pas Didier Marty là-dessus là
Didier Marty, non, il devait être à l'Olympia. Hein. C'était le groupe français de Jay. Mais pour ces sessions-là, le saxophoniste. Je vais voir si je vais pouvoir te trouver ça. Bah, c'est même pas noté dans les crédits, tu vois. Enfin, pas dans les crédits de l'Olympia. Ça va être sur le Atlas, mais c'est pas noté sur ces crédits-là.
Et puis. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et Jay voulait que ce titre, Frankly Speaking, soit sur l'album Atlas. Et le producteur. Qui s'appelle Patrick Maté de l'ancien
Last Call.
L'a pas mis et Jay lui a fait mais un scandale, il l'a littéralement pourri, ce qui fait que Maté qui a produit, enfin si on peut appeler ça produire, parce que qui a commis le live
de l'Olympia,
sortir ce live pourri de l'Olympia, pas pour la musique mais pour le son, parce que c'est littéralement pourri et scandaleux.
Très bon concert et très mal restitué malheureusement.
Bah, concert, j'espère que c'était bon, mais le son était vraiment abominable. En tout cas, Jay a imposé que le titre Frankly Speaking soit dessus, sinon il s'opposait à la sortie de l'album. C'est un beau cadeau quand même.
Absolument. Produit par Jim Dickinson, un grand producteur US
Atlas
et pianiste,
qui
a notamment joué avec les Stones, un très très grand nom de la musique US également.
Et pendant les sessions, parce qu'à 4 heures on quittait le studio, c'était l'époque du festival de Memphis. Je vois Little Milton qui nous a quitté, tu sais. Little Milton, donc chez lui à Memphis. Anne Peebles, t'imagines. Ces mecs-là, Anne Peebles, tu sais, I can't stand the rain, c'est elle. Et il joue dans la rue et c'est super, hein. C'était vachement bien.
On repart dans cette ambiance.
Allez.
C'était il y a quelques années déjà,
ouais,
mais c'est
vieil
tellement
ami.
Bon. C'est parti. Eh ouais, je voulais absolument laisser le morceau jusqu'au bout pour entendre la voix de Screaming Jay Hawkins.
C'est ça, génial.
Vous êtes toujours sur le 103.5 FM, Radio RDL, Route 66, une émission que vous pouvez retrouver sur Internet, évidemment, à travers notre site, sur laroute66.free.fr, où il y a déjà une interview de Franck, qui date d'il y a quelques années, peut-être même deux, et il y aura bientôt, évidemment, un reportage sur sa venue dans l'émission avec ses deux musiciens actuels, qu'on va peut-être essayer de présenter un petit peu plus amplement immédiatement. Alors on va peut-être commencer par Lamine, parce que c'est celui qui est le plus près de Franck, le bassiste du groupe. Alors est-ce que tu pourrais rapidement revenir aussi un petit peu sur ton parcours ?
Ben, mon parcours, il ne va pas avoir la même richesse que celui de Franck, hein, mais il est un peu plus simple. Hein. Donc moi, j'ai commencé la musique par jouer du piano.
Ah bon, je ne savais pas.
Eh ben voilà, tu l'apprends aujourd'hui. Donc j'ai commencé par faire du classique en fait, à l'âge de 11 ans, 12 ans, là je faisais du classique, du Chopin, du Bach.
Cachetier.
Oui, oui. Et donc à un moment donné, voilà, je découvre la basse là, dans une petite formation et voilà, je m'intéresse un peu plus à la basse quoi. Donc pas sérieusement du tout, hein, parce que bon, j'avais suivi mes études tranquillement, là j'ai passé mon bac, j'étais en classe préparatoire là pour, voilà.
T'es un garçon, toi,
oui, 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 jusque-là, jusque-là, tout va bien.
Fils de famille et tout.
Jusque-là, tout va bien. Bon, sauf que, évidemment, à l'université, là, tu rencontres, donc, je rencontre des étudiants et tout, un peu fan de musique, de blues rock, etc. Donc là, je commence un petit peu à jouer plus de basse avec des gens comme ça. Et voilà, donc là, je découvre effectivement une autre vocation qui est celle d'un bassiste, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai joué en tant qu'amateur jusqu'à un moment donné où j'ai formé avec Philippe Fernandez et Bala Pradal à un moment donné le groupe Big Days en 96. Donc à partir de cette date effectivement j'ai commencé à jouer un peu plus sérieusement du blues, notamment principalement du blues, hein. Donc à ce moment là quoi, donc voilà, donc jusqu'à donc j'ai joué avec Big Days jusqu'à la formation Big Days jusqu'à 2005 ou 2006 par là, donc voilà, donc par la suite, là, je joue de temps en temps, donc avec Franck, quand il a l'occasion de passer par là, ou voilà. Voilà, donc j'ai l'occasion aussi de jouer avec d'autres musiciens blues, un peu en région parisienne, voilà. Donc mon parcours est un peu plus simple, comme je disais tout à l'heure.
Ok. Et on va tout de suite également demander la même chose à Stéphane, batteur de son état, que j'avais déjà eu l'occasion de voir justement avec le groupe Big Days. Hein,
ouais, tout à fait.
C'est
ouais.
Pas un secret, il a également joué avec Phil et toute la bande. Alors, est-ce que tu pourrais également revenir un petit peu sur ton
Bah écoute, moi j'ai commencé par jouer du piano aussi.
Tu vois, t'avais deux pianistes à disposition, Franck. Hein.
À l'âge de 7 ans, mais c'était très succinct, on va dire, hein, en école de musique. Après, vers 10 ans, enfin moi je voulais être batteur, mais il n'y avait pas de cours de batterie à l'époque. Et après, j'ai fait de la percussion classique pendant 2 ans. Et à l'âge de 14 ans, j'ai, avec des potes d'école, notamment Mr. Chang, c'était le guitariste de. On a commencé la musique ensemble, en fait.
Comment s'appelle lui ?
Samuel.
C'est ça.
Samuel Chang, en fait.
Samuel Audrix. Et donc on a commencé la musique ensemble, donc voilà, c'est là où j'ai fait un peu les premières armes à la batterie, où on a tout de suite joué très vite, parce qu'on était à l'étranger. Et...
Vous faisiez pas de morceaux lents ?
Et donc voilà, après moi je suis bon, j'ai voyagé, et puis je suis monté à Paris, où j'ai fait du jazz, du funk, etc., et j'ai rencontré donc Big Days donc à Paris, il animait les jams au caveau des oubliettes, donc avec Lamine qui était déjà dans le groupe, et voilà, il m'a branché, c'est comme ça que j'ai connu aussi Franck lors d'une jam. Mmh. Et voilà en gros.
Ok, alors puisque vous êtes tous les trois ensemble, on va quand même rappeler que, en tout cas pour ceux qui nous écoutent lors de l'émission, la première diffusion de l'émission le mercredi, que vous pourrez encore voir nos trois invités ce soir au CAFCONS d'Ensisheim, aux alentours de 21h30, hein, ne ratez surtout pas ce rendez-vous, c'est vraiment très bien. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir Franck sur scène, donc c'est le moment ou jamais de se rattraper. Franck, tu vis en Angleterre depuis quelques années, parce que justement... est-ce que tu estimes que ça a été un handicap pour toi en ce qui concerne ta carrière française?
Oui.
Parce que c'est vrai que...
je le pense en tout cas, oui. Si tu veux, je suis parti au moment où la scène blues commençait à s'effondrer en France. Parce que, ça je sais pas si tu en parles avec dans tes émissions avec tes invités, mais ça va vraiment pas bien du tout. Bon, enfin... Et ils m'ont oublié ici. Ça fait pas longtemps que je suis parti, ça fait quoi, 7 ans 6 ans, 7 ans? Et ouais, ils m'ont oublié un petit peu, je crois. Alors, est-ce que les autres musiciens français ne jouent pas non plus? Ça, j'en sais rien, parce que je suis un peu déconnecté, justement. Mais j'ai en tout cas, moi, le sentiment qu'ils m'ont un petit peu oublié. Et c'est pas faute de les relancer, si tu veux, c'est pas « on viendra me chercher enfin, », je suis pas comme ça. Moi, je me rends disponible pour venir jouer parce que j'ai envie. Mais ouais, j'ai l'impression que... Ou peut-être ils n'ont pas envie parce qu'ils aiment pas ce que je fais, ils ont le droit, tu vois, mais... J'ai un peu le sentiment qu'on m'a oublié.
Est-ce que tu t'en veux un peu d'avoir été si longtemps absent des scènes françaises? Est-ce que la solution serait pas justement de revenir régulièrement pour 3-4 dates à chaque fois, histoire d'un petit peu reprendre?
Je suis à 2h15 en train de Paris. Ça n'a pas de sens de dire je suis parti, tu vois. C'est un autre pays, d'accord, mais si j'étais à Bruxelles, on en parlait tout à l'heure, je serais aussi dans un autre pays, mais bon, c'est comme si j'habitais Bâle. C'est un autre pays, tu vois, mais c'est vraiment... Je suis pas parti aux États-Unis.
C'est pas le bout du monde, ouais.
Tu vois, je suis pas en Papouasie, quoi.
Enfin, quoi qu'il en soit, tu te produis régulièrement à Londres, dans un club.
Oui.
Tu me disais tout à l'heure dans la voiture que la situation n'était pas non plus
très rose en Angleterre. Non, c'est pas brillant non plus. C'est... Je crois que le blues, en général, ça fait longtemps que je suis pas allé aux États-Unis, je sais pas comment c'est maintenant, mais c'est pas brillant non plus. Hein. Y a plus de clubs parce que c'est plus grand, mais je sais pas, il faudrait demander aux sociologues et aux gens intelligents de nous expliquer pourquoi on en est là.
Enfin, en tout cas, c'est un débat qui mériterait une émission complète, je crois.
Ouais. Faudrait aussi. Faire une investigation, enfin, voir aussi auprès du public.
On s'en chargera, promis.
Ben oui, bon, puis les je sais pas, moi je suis le premier à moins sortir aussi, enfin je veux dire. Mais moi je sors pas parce que j'ai rien à écouter, il y aurait de la musique, je sortirais, tu vois, moi je regrette, il n'y a plus rien, quoi.
Mais c'est vrai que. À une époque encore, il y avait beaucoup de gens qui n'hésitaient pas à prendre la voiture, parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller voir un concert.
Bien sûr.
Qu'en l'espace de quelques temps, tout ça c'est tari. Et puis même les gens qui habitent
à proximité.
Je me suis endetté
pour aller écouter B.B. King à Deauville et j'ai dormi sur la plage en attendant le train du lendemain matin, monsieur.
Ouais. Mais bon. C'est un peu sorti des mentalités tout ça. Ça a tendance à se perdre malheureusement également. L'émission touche à sa fin, ça va vraiment très vite. Alors on va simplement rappeler que tu as quand même sorti 2 disques sous ton propre nom que vous pouvez toujours procurer, je pense.
Le premier nom, il est épuisé. Le deuxième, oui.
Donc les moyens sur ton propre site internet, on va peut-être rappeler.
Pas encore. Je vais y travailler.
D'accord. Mais, on va rappeler justement tes contacts internet www.francash.
Franck, ça s'écrit FRANCK.
Avec un
point ASH. Point com.
Ouais. Il n'y a pas le point ASH.
Non, il n'y a pas. T'as raison, ça c'est mon email perso que je ne vais pas donner. le site c'est FrancH en un seul mot. Point com. C'est l'habitude de filer des détails, tu sais.
Et une page MySpace, hein, c'est très important.
Une page MySpace, donc c'est www.myspace.com/FrancH. Et puis, et à travers le site, on peut me contacter si les gens ont envie de me dire des choses gentilles. Uniquement, s'il vous plaît.
On va finir très vite. Je vais simplement rappeler 2 concerts à venir dans la région. C'est très important. Toujours au CAFCONS d'Ensisheim, vendredi prochain. On sera le 10. Oui, c'est ça, le 10 octobre. Il y aura un bluesman, chanteur-guitariste venu du Québec qui s'appelle Mike DeWay. C'est pas loin. Hein, donc, si vous voulez vraiment passer le Québec, non, c'est pas si loin que ça non plus. Donc, si vous voulez vraiment passer une bonne soirée avec de la bonne musique, rendez-vous au CAFCONS. Hein, n'hésitez surtout pas, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de 10 personnes. On compte sur vous. Et le 11 octobre, au Nancy Jazz Pulsation, une soirée blues également de très grande qualité avec Little Freddie King, John Mayall et Monsieur Joe Louis Walker, qui est très très bon lui aussi. Un petit mot de la fin, Franck, pour conclure l'émission.
À part un grand merci et le plaisir de t'avoir revu après 4 ans, comme tu disais. Et souhaitons que les choses s'arrangent. Le blues crunch remonte un peu la pente, quoi.
On va continuer à se battre, alors.
Se battre, c'est pas le mot. Ouais, enfin, nous on a toujours la foi, on fait toujours, on aime la musique, on peut pas faire autrement, toute façon.
Persévère.
On persévère, ouais, mais faut, je veux dire, on gagne plus notre vie, quoi.
C'est sur ces tristes paroles qu'il va falloir finir. Je suis désolé, ça plombe l'atmosphère tout de suite, mais non. Bon, c'est malheureusement la réalité.
Bah oui.
Et donc faut en parler, faut pas hésiter.
Dire les choses comme elles sont.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Si on gardait le blues vivant. Et puis désolé, en tout cas, on aurait aimé que cette émission dure beaucoup plus longtemps, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé tous les sujets à fond, c'est un petit peu dommage. On a brûlé pas mal d'étapes de ta carrière, mais bon, on aura l'occasion de se revoir, j'en suis sûr. On a dit l'essentiel. Ouais. Merci à tous les trois d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine sur le 103.5 FM avec une émission qui a été enregistrée il y a quelques jours, mais où nous étions également en bonne compagnie, puisqu'il y avait monsieur Litfoot Rivet, accompagné par son guitariste Stan Nubar Pacha. C'était un très très bon moment que vous aurez l'occasion, absolument, que vous aurez l'occasion de vivre la semaine prochaine dans Route 66, et puis retrouvez-nous d'ici là sur le site internet sur laroute66.free.fr. On se quitte en musique avec un dernier morceau de Franck H que vous pourrez retrouver le mercredi 8 octobre à partir de 21h30 au CAF Cons d'Ensisheim. N'hésitez pas.
C'est ce soir.
C'est ce soir. Mais je préfère donner la date au cas où les gens ne nous écouteraient pas en direct le mercredi pour pas qu'il y ait confusion.
D'accord.
Mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent le mercredi soir, c'est ce soir après l'émission, vous aurez juste le temps de vous y rendre et de passer un excellent moment avec de la très bonne musique, comme l'atteste cet ultime titre, toujours extrait de cet album qui s'appelle
Beyond the Clouds.
Et donc vous allez tout de suite écouter le titre éponyme. Merci à toi, mon très très vieil ami, j'ai passé un excellent
Merci,
moment.
David.
Salut à tous.
Still in love. Yeah. on the cloud.